Il est 8h passées de 5 minutes, vous êtes toujours à l'écoute des promesses de l'aube et nous sommes en compagnie de notre invité, Orhan Mounition. Bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Et merci d'être venu de grand matin pour nous parler de ce beau projet à partir, depuis hier jusqu'au 1er novembre, se tient à Beaux-Arts une exposition intitulée « Next Generation, Please ». Il s'agit de 7 projets artistiques réalisés par des jeunes sur des questions sociétales. Quel avenir souhaitons-nous? Quelles peuvent être les solutions durables? Quelle est l'influence de nos gestes quotidiens sur la nature? Et parmi ces 7 projets, il y en a un que vous avez mené conjointement avec Eric Corain, avec Zoé Genot et vous-même. Je ne sais jamais si je dois tutoyer ou vouvoyer à l'antenne. Et donc, il s'agit d'un projet mené avec les élèves du collège Saint-Michel, des 16 jeunes, donc de 5e et 6e secondaire. Eh bien, voilà, ça rend curieux, et surtout alors que le confinement a été très dur pour les jeunes, on n'en a sans doute pas assez
parlé.
Parler de cette difficulté pour les jeunes de vivre ce confinement et des dégâts que ça a pu faire pour eux, mais aussi jeunes élèves en secondaire ou jeunes étudiants. Enfin, la jeunesse a bien morflé, comme on dit. Ouais. Et donc, comment vous en êtes arrivé à faire ce projet qui s'appelle
le supermarché 100% déchets.
Voilà.
comment j'en suis venue je suis toujours intéressée par les questions de recyclage. Je travaille beaucoup comme plasticienne sur les rebuts. C'est un petit peu, un univers que je travaille depuis déjà pas mal de temps. Et en fait, ça a été, une conjoncture entre le fait que je faisais un parascolaire au Collège Saint-Michel et j'ai retrouvé des professeurs qui sont très, qui sont impliqués dans les questions environnementales. Donc, il y a deux professeurs, notamment à Saint-Michel, qui ont réussi à avoir le label EcoSchool. Et qui est un label en fait qui invite à ce que on mette des poubelles dans les écoles, on conscientise les jeunes à l'environnement, au recyclage et tout ça. Donc ils étaient déjà eux dans cette dynamique, moi dans la mienne, et on s'est rencontrés en fait autour de ce projet qui est en fait la troisième édition. Hein, c'est la troisième édition que Beaux-Arts lance. Et tout de suite, on s'est dit oui, il faut absolument présenter quelque chose. A surgi tout de suite, l'idée de faire un petit peu le pied de nez au zéro déchet en se disant, nous, on va faire un supermarché 100% déchets pour interpeller encore une fois, sur cette société qui déborde de surconsommation et auquel il faut absolument arrêter ce mouvement, quoi. Et je trouvais que vraiment, en plus, ce qui est vraiment intéressant là avec Beaux-Arts, c'est ce lien entre l'artistique lié aux politiques, à l'implication vraiment, et à travers les jeunes. Et à travers aussi, avec des intervenants, comme tu l'as dit, on a fait appel au sociologue et philosophe et professeur d'université à la VUB, Eric Courain, et à la députée régionale bruxelloise, Zoé Genot, où on a pu vraiment avoir des vraies discussions sur cette problématique, qui nous ont amené aussi à même interroger, la notion même de recyclage. Parce que on se rend compte que même le recyclage, ça peut pas non plus être, la solution aussi, derrière laquelle on peut se cacher aussi, en se disant, en ayant une bonne conscience, en se disant, on recycle, alors c'est bon, on peut continuer à consommer. Non, la vraie question, c'est de se dire, ralentir cette consommation. Donc, voilà, le projet, ce qui était vraiment intéressant, c'est que les jeunes avaient accès à ces intellectuels, à parler avec eux, à discuter avec eux, et c'était très ça, je veux dire, de pouvoir avoir accès comme ça à des gens dans la discussion, ça les a vraiment, je pense, bien touchés, ça les a vraiment touchés, et ça a permis, déjà, je veux dire, c'est quand même une génération qui est déjà nettement plus consciente, je dirais, que nous au même âge, mais là vraiment je pense que c'était vraiment on sentait qu'ils avaient vraiment envie de s'impliquer là-dedans, quoi. Donc ça, c'était très positif comme expérience à ce niveau-là. Je trouve que vraiment les jeunes étaient très porteurs de ça. Et ce projet, c'est ça qui est très bien, que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que bon, il y a au moins 150 jeunes qui sont impliqués dans ce projet. Si on met les sept projets en commun. Et je trouve que ça donne un élan comme ça, un souffle de fraîcheur aussi, hein, que bon, ça se voit dans l'expo, je pense vraiment, qui fait que qu'on sent que c'est une génération qui va faire bouger des choses, je pense. J'y crois en tout cas.
Et du coup, pour revenir un peu sur le projet de Next Gender Generation Please, c'est la première fois que vous y participiez, ou vous aviez déjà
Non, c'était la première fois. Voilà, non, c'est la première fois. J'ai rencontré Mélade Genobo Nigussi, qui est la coordinatrice du projet, et Grégoire Legrain, qui est le directeur artistique de Beaux-Arts. Et donc on a présenté le projet, et tout de suite il y a eu vraiment un très bon accueil de leur part. Et donc c'est un projet qu'on a travaillé sur un an, hein, ça il faut le dire, hein, donc c'est quand même un projet sur le long terme, qui a été, donc il y a eu cette rencontre, comme je dis, avec les experts, comme ils les appelaient, et puis aussi après il y a eu un travail, je veux dire, très régulier. Par exemple, nous on se réunissait une fois par semaine, je dirais, à l'école, on avait un local où on a pu travailler vraiment plastiquement, je dirais, les objets, puisque l'idée, nous, c'était de créer, donc, on a créé deux salles, hein, mais il y a une première salle qui est donc une reconstitution, je dirais, libre, inspirée de quelques rayons. On va pas être, on va être modeste, quelques rayons d'un supermarché, et qui est en fait complètement un vrai délire, puisque quand on s'approche des produits, on découvre que tout est fait en plastique, tout est fait, je veux dire, avec des plic-plocs qu'on a retrouvés, qu'on a ramassés. Enfin, on a fait toutes les fonds de poubelle. On a vraiment été au charbon à ce niveau-là. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a poussé un petit peu l'absurdité de cette consommation jusqu'au bout, quoi, à travers ça. Et puis, on a fait une autre salle qui est une salle où là, c'est une espèce de confrontation, je dirais, entre la nature et les déchets, qui ramène un petit peu à cette question aujourd'hui de tous ces scientifiques qui nous disent là on est arrivé à un point de non-retour, hein. Je veux dire, c'est souvent un discours qu'on entend où on nous dit bon, là on est à passer les bornes, on va plus pouvoir faire marche arrière. Donc on avait envie, dans cette espèce de paysage, donc c'est une espèce de map bande qu'on a créé avec de la terre sur laquelle il y a des déchets, il y a des choses, enfin je vais pas tout dire, mais il y a des choses qui sont construite dessus, et qui est vraiment comme une espèce de condensé de cette lutte qu'on a en ce moment entre la biodiversité d'un côté, les déchets, la pollution de l'autre, enfin une espèce de mélange de melting pot comme ça de ces univers qui se confrontent. Ça me rappelle aussi, par exemple, une image que moi j'ai très forte, c'est ces images de sangliers qui arrivent dans les villes et qui mangent des poubelles, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. C'est pour montrer ça. On en est là, quoi. Voilà.
Et est-ce que c'est vous donc qui avez choisi de travailler avec Zoé Genot, et avec, ou bien c'est le projet de Beaux-Arts en général qui affecte des experts et des politiques?
Non, tout à fait. Là, c'est nous qui choisissons. Donc, c'est moi qui suis allée chercher. C'est deux personnes que j'appréciais pour leur travail et leur implication. Donc, c'est moi qui suis allée les chercher, et qui ont tout de suite répondu répondu oui et qui ont très généreusement accepté de nous aider par rapport à ce projet.
C'était un projet qui a commencé bien avant le confinement, donc il était prévu de faire l'exposition.
Oui, exactement. C'est un projet qui a eu beaucoup de fragilité, je dirais, parce que donc on l'a commencé en septembre 2019, oui, c'était ça. Et puis c'était prévu en fait de faire l'expo au printemps. Mm-hmm. Et quand le Covid nous est tombé dessus, ben évidemment tout s'est arrêté du jour au lendemain. Les jeunes, je les ai plus vus, donc on a eu vraiment des contacts après virtuels, mais c'est pendant tout un moment on s'est plus vus. Et il y a eu même la possibilité de suspendre l'exposition. Alors quand même, à Beaux-Arts, ils nous ont consultés, tous les artistes, et on s'est dit non, c'est pas possible, parce qu'avec tous ces jeunes qui sont impliqués, ça serait vraiment dommage. Et résultat des courses, on est quand même, hier, on a fait donc l'inauguration de l'expo, et vraiment, on s'est dit, ouais, ça a valu la peine de vraiment tenir bon et de la faire. Alors, bon, on a dû modifier un petit peu les locaux, parce que c'était plus les locaux à louer, enfin bon, il y a eu des petits chamboulement comme ça au sein de Beaux-Arts, mais on est arrivé malgré tout à tenir le navire, et on y est arrivé, donc ça c'était quand même déjà très positif, très très positif.
Et par rapport le résultat de ce qu'ils ont à dire, c'est bien sûr l'exposition et ce que vous avez créé tous ensemble, mais quels ont été les points de discussion, là où ça coinçait le plus, ou comment ils se sentent, les jeunes, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais confiance qu'ils allaient changer les choses. Qu'est-ce qu'ils veulent changer exactement ?
Eh ben, je pense qu'ils sont conscients que ce mode de consommation, de hyperconsommation, qui a commencé il y a plus de 50 ans maintenant, hein, parce que c'est vrai que ça, j'ai pas dit, mais le point de départ, c'était le Supermarket Lady de Dwan Hanson, là, cette espèce de sculpture pop art hyper réaliste de cette femme avec un énorme caddie. Donc on est vraiment parti de là, et de se dire, mais 50 ans après, on en est toujours là, c'est incroyable que rien ne se soit passé réellement, quoi. Et je pense que, alors, les jeunes n'ont pas encore la réponse. C'est des questions tellement complexes qui imbriquent. C'est ça qui est complexe, c'est que ça imbrique tellement à plein de niveaux, plein de d'intervenants. Je veux dire, il faut tenir en compte de plein de choses quand on veut réduire cette consommation. Mais en même temps, ils savent que c'est pas viable. Ils le savent, donc je pense qu'ils sont prêts à stopper une partie de leur consommation. Ça, je pense. Par rapport à notre génération, je pense qu'ils sont nettement moins dans la consommation comme nous. Donc, moi, je l'ai trouvé déjà très réfléchi par rapport à ça, parce que bon, en principe, quand on est un adolescent, on est en plein consumérisme, justement, avec les marques, tout ça et tout. Cela, je les ai trouvés assez, alors je sais pas si c'était les 16 que j'avais, puisque c'était un projet quand même qui était volontaire, à la base. Donc, en fait, ça, c'est vrai, j'ai pas dit. Mais, donc, c'était, on a fait appel avec les deux professeurs, donc, qui sont Dorota Lox, qui est professeur de sciences, et Vincent DeVos, qui est professeur de français à Saint-Michel. Ils ont pris chacun leur classe et on a fait un appel aux volontaires, et on a eu 16 volontaires, en fait, entre les deux classes. Donc, effectivement, c'était des jeunes qui, à la base, avaient envie de faire ce projet. Donc, peut-être que c'est une vision partielle des choses, mais ces 16-là, ils étaient vraiment motivés. Je pense qu'une grande partie déjà du travail de conscientisation était déjà présent en eux. Donc ça, c'était très bien. Et restait la fameuse question, après, que ça, j'ai déjà un petit peu abordé, de se dire, bon, ce recyclage aussi, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'il y a ça aussi comme question sous-jacente après. Donc, ça, c'est des choses qui ont été soulevées lors des discussions.
Oui, qu'on dit souvent que le meilleur recyclage, c'est de ne pas consommer, de utiliser. On continue effectivement dans la surconsommation, on va devoir sur-recycler on s'en sortira plus.
Oui, et il y a toujours, malgré tout, même dans le recyclage, il y a toujours des déchets. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg dont on ne parle pas trop, mais il y a quand même aussi. Donc du coup, ce n'est pas non plus une solution Bon, ça peut être une solution transitoire, mais je veux dire, c'est pas non plus, c'est ce que je disais, il faut pas se cacher non plus derrière ça aussi. Mmh. Donc, non, c'est vraiment une attitude à avoir, un comportement au quotidien. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a joué sur le supermarché, parce que c'est tellement emblématique de ça, le supermarché. C'est tellement l'endroit où tous les jours on va, où tous les jours on achète, je veux dire. Donc, c'est vrai que ça a été, dès le début, ça s'est imposé par rapport à ce projet environnemental. On s'est dit, ouais, c'est vraiment un supermarché qu'il faut faire. Et puis après, eux ont construit les produits... Et d'ailleurs qu'ils ont construit avec beaucoup de, je dirais, de façon très ludique. Hein. Ils se sont beaucoup amusés à faire ça. Donc c'était parce que c'était, on rentrait un petit peu comme ça dans un tel non-sens que ça les amusait beaucoup de créer ces objets. En fait, ça a été très ludique comme activité, je dirais, de construction d'objets. C'est drôle, hein, mais c'était ça.
Est-ce que, justement, enfin, il y a deux ans, cette année-ci, un peu moins forcément avec l'épidémie, mais est-ce qu'il se relationnait aussi, enfin, si je puis dire, avec les mouvements justement des jeunes pour le climat, de Greta Thunberg?
Tout à fait, oui, tout à fait. Il y en avait qui avaient participé l'année d'avant aux marches et tout ça, bien sûr. Oui, non, tout à fait. Ils étaient tout à fait, ça a été tout à fait abordé. Et ils sont tout à fait dans cette dynamique-là, hein, évidemment. Bon, effectivement, là maintenant, ça a été un petit peu, parce que là, je crois que c'était vendredi, il y avait la journée mondiale pour le climat et tout ça. Bon, effectivement, il n'y a pas eu tant de répercussions comme les années précédentes, mais bon, il faut dire que le contexte est aussi un peu compliqué maintenant. Donc, mais c'est le genre de choses qui ressurgit après dans une autre vague. Hein. Je veux dire, c'est des vagues, je dirais, de mouvements comme ça qui se mettent en marche. Et je veux dire, c'est pas, alors il y a des gens qui disent oui, ça s'essouffle et tout ça. Moi, je pense pas que ça s'essouffle. Je pense que c'est vraiment des mouvements comme qui vont et viennent et qui s'accumulent quelque part, qui se nourrissent aussi. Donc je pense que ça va ressurgir parce que c'est tellement dans notre préoccupation quotidienne et sociétale, justement, que il faut ça ressurgit. Si on veut l'enterrer d'un côté, ça ressurgira d'un autre. Donc il y a, à ce niveau-là, moi je pense que oui, qu'il va y avoir toujours un mouvement par rapport à
et
ça.
Et surtout qu'on ne va pas vraiment dans la bonne direction non plus, malgré
non, évidemment, avec le Covid aussi, on est aussi tombé dans une surconsommation à travers les masques, à travers tout ça. Il y a aussi beaucoup de déchets qui se sont alors c'est marrant parce qu'au début, pendant le confinement, tout le monde a dit « Ah, super, la nature reprend le dessus, il y a l'herbe qui pousse sur la grande place et tout ça. » Enfin, il y avait quand même une espèce d'espoir comme ça. Et puis tout de suite, après, ça a été un pétard mouillé parce qu'on s'est rendu compte que moi, je faisais des photos de partout dans le quartier où il y avait les gants, les masques par terre qui étaient jetés n'importe comment. Enfin bon, et voilà quoi. Donc non, au contraire, donc avec cette histoire de Covid, je pense qu'on a mis de côté tous nos gestes justement de conscience par rapport à ça.
Oui, parce qu'il y a effectivement les masques qu'on retrouve par terre, mais il y a aussi que tous les gestes qu'on avait appris à faire, d'utiliser des tasses plutôt que des gobelets en plastique et tout ça est évacué un peu partout, et sous prétexte que
de l'hygiène,
de cette hygiène.
Oui, effectivement.
On jette tout, on est retourné, j'ai l'impression, quelques années en arrière en termes d'utilisation du plastique.
Donc le plastique a encore de beaux jours devant lui, je crois. Donc c'est d'autant plus important d'être conscient.
Et pour revenir aux jeunes, est-ce qu'ils se sentent justement, comme ils sont conscientisés, qu'ils ont eu cette chance de participer à ce projet, est-ce qu'ils se sentent, je veux dire, investis d'une mission de diffusion de est-ce qu'ils en parlent autour d'eux, est-ce qu'ils font part du fait qu'ils sont tout seuls à penser comme ça, ou bien
Non, tout à fait, ils en parlent tout à fait autour d'eux. On devait même, par exemple, faire, ça c'est vrai, c'était une activité qu'on avait prévu de faire et qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire, mais on devait faire un plugging EcoRun. Donc on devait partir du collège et faire une course où on devait ramasser tous les déchets dans le quartier et tout ça. Donc c'était, et ils étaient super motivés pour faire ça, évidemment, quoi. Donc dans le genre action comme ça, donc on avait prévu de le filmer et tout, mais tout ça est tombé donc au moment du Covid, donc du coup on n'a pas pu le faire. Mais je suis sûre que dans une, peut-être que cette année, avec ce fameux label EcoSchool, ben peut-être que c'est un événement qu'on arrivera à reprogrammer. Et je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de jeunes qui auront envie de le faire. Donc ça, c'est sûr. Donc, à ce niveau-là, ils se stimulent aussi, je pense, à travers ça.
Parce que les jeunes, ils n'ont pas fini les secondaires, là, ils sont encore...
Alors, il y avait deux classes, en fait, donc comme j'ai dit, il y avait une classe de 5e et une classe de 6e. Okay. Donc, ceux qui étaient en 6e, là, ils sont passés à l'UNIF, effectivement, et ceux qui étaient en 5e, donc ils sont passés en 6e. Ouais.
Et donc, vous allez continuer à faire un travail avec eux en parascolaire ou...
Alors, non, là, dans le cadre du projet, je pense que ça va se terminer, donc là, à la fin, enfin, je veux dire, à la fin de l'exposition. Donc ça dure encore tout un mois, hein, l'expo. Et je ne sais pas après s'il y aura d'autres projets qui ressurgissent. Moi, je sais que j'ai très envie de recommencer un projet comme ça parce que je trouve que l'art, c'est ça, quoi. C'est s'impliquer dans des vraies questions. Et puis, en interpellant avec le sensible aussi, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. C'est pas bon, on a les statistiques, on a l'information, on a tout ça, mais c'est aussi important de toucher les gens par le sensible, et ça c'est l'art qui le permet vraiment, enfin l'art entre autres, parce que c'est vrai qu'on peut être touché par un article, hein, mais nous c'était vraiment cette problématique là qu'on avait envie d'aborder et j'étais très contente pendant l'installation de l'expo de voir que les travailleurs de Beaux-Arts ils se sont arrêtés sur les étagères pour regarder tous les produits et ils commentaient ça entre eux, et je trouvais ça vraiment, ça m'a beaucoup touchée, parce que je me disais ouais, même les travailleurs qui sont là pour, entre guillemets, faire des trucs pratiques et tout ça, ils se sont arrêtés pour voir les produits et ils en ont discuté entre eux. Et vraiment, c'était... Bon, j'ai pas eu le temps de faire une photo, mais j'avais vraiment envie de garder ce petit moment, parce que je trouvais ça très touchant. Et pour moi, c'est ça l'intérêt, c'est interpeller comme ça. C'est vraiment dans des petites choses, mais qui, en s'accumulant, finissent par vraiment finir par toucher et faire qu'un jour, ben, on arrête à faire certains gestes qu'on fait machinalement. C'est vraiment ça.
Et puisqu'il y a eu l'inauguration hier, les six autres projets, c'est...
Alors oui, c'est vrai,
je voulais en parler au début. Si tu peux parler un petit peu comme ça.
Alors, il y a un projet du Wills avec une artiste qui s'appelle Anouchka Oler. Et en fait, elle a travaillé sur la notion de genre. Et donc, elle a fait un travail à la fois de photos mises en drapeau, je dirais, et qui reconstitue une histoire du matriarcat européen. Donc c'est vraiment mettre un petit peu en valeur ces femmes qui ont été, on sait que souvent dans l'histoire, que ce soit l'histoire de la peinture, de la musique, enfin, les femmes, on les compte sur les sur les doigts de la main, quoi. Donc voilà, elle a fait un travail comme ça. Il y a après un très chouette projet qui est Gen Z. Donc ce projet, il a été mené par Salvatore Calcagno et Antoine Neumars. Et eux, ils ont travaillé sur l'identité des jeunes. Ils ont fait des super portraits de jeunes, vraiment, avec des phrases comme ça que les jeunes disent sur la société. Et ils ont fait des énormes posters qu'ils ont mis à l'extérieur aussi de Beaux-Arts. Donc ça en jette, hein, je veux dire, ça fait vraiment un super effet. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a eu plusieurs projets sur le recyclage aussi, enfin sur l'environnement. Le gang des vieux en colère, ça c'est très très bien aussi. Ils ont fait tout un projet sur un peu les caricatures qu'on véhicule entre les personnes âgées et les jeunes. Donc ils ont travaillé sur cette notion là. C'était intéressant ça aussi. Et voilà, enfin il y a plusieurs encore d'autres projets, mais en fait donc c'est ça qui est très bien, c'est qu'on passe d'une salle à l'autre. Et on rentre chaque fois dans une thématique qui aborde un sujet, mais tout ça reste en très homogène aussi, je dirais, parce qu'il y a une cohérence en même temps. Et puis il y a une scénographie qui a été bien faite aussi, je pense, puisqu'on a été relogé comme ça dans d'autres locaux qui n'étaient pas du tout prévus, donc il a fallu qu'on adapte complètement nos projets. Et la scénographe qui est Camille Touche, quoi, ou je me rappelle jamais son nom. elle a vraiment bien réorganisé l'espace. Et voilà. Donc.
Qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis curieuse aussi de savoir pendant le confinement. Enfin, je reviens un peu en arrière, mais. Tu as réussi à garder le contact quand même. Vous faisiez
c'était pas évident.
Des petits zooms.
On s'est fait des réunions avec notre petit damier là sur l'écran. Oui. Effectivement. Alors c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'effectivement ils ont pas mal décroché. Et ça en plus je l'ai partagé avec les autres projets, hein, les autres artistes qui faisaient des projets. Ils me disaient la même chose. C'était très difficile parce que c'est un moment où ils ont été assez absents en fait. Ils ont été, je dirais, absents dans le sens que ça leur est tellement tombé dessus qu'ils avaient du mal à s'accrocher à quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, donc c'était pas seulement nous, c'était quelque chose de beaucoup plus large que ça. Hein. Ouais. Donc ça, oui, c'était vraiment une parenthèse comme ça, assez forte. Mais je pense que ça, c'est aussi un enseignement de vie aussi, hein, quelque part. Parce que moi j'ai aussi un garçon qui a cet âge-là et je sais que ça les a remués de l'intérieur tout ça, hein. Donc c'est certain qu'ils seront marqués par ça.
Et oui, c'est difficile de voir comment ça a affecté jeunes ados, je pense.
C'est peut-être des choses qu'on voit pas tout de suite là. Je veux dire, c'est peut-être des choses qu'on verra dans quelques années, qui ressurgiront dans quelques années. C'est pas, je veux dire, c'est tellement diffus, c'est tellement à plein de niveaux aussi. Et aussi c'est vrai que c'est des adolescents qui sont, dans le choix de leur vie pour se lancer dans des études. Et tout ça leur est tombé à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est comme un boulet. Quoi, qui peut les déstabiliser complètement. Et en même temps, ça ramène aussi à des notions de vie, de survie très primaires, comme ça. Et où là, je pense qu'il peut y avoir un enseignement très fort dans cette expérience. Donc, je n'ai pas une réponse, tu vois, à te dire, bon, ils sont comme ça maintenant.
Oui, non, c'est
pas ça la question. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a une implication, que c'est sûr que dans quelques années, cette génération-là, peut-être qu'on l'appellera toujours la génération Covid, hein, comme on a appelé la génération Z, il y aura la génération Covid. Et ils seront marqués par cette histoire, hein, qui est quand même assez historique, quoi, dans ce qui nous est arrivé.
Donc, mais c'est clair, et les plus petits aussi, ils ont appréhendé ça d'une manière qu'on n'imagine pas toujours.
Alors, c'est aussi, je dirais, à double face, parce que je trouve que à la fois il y a des choses comme ça qui les ont beaucoup marquées, qui sont très dures, mais je pense aussi que des fois, nous, les adultes, on plaque un peu aussi des visions très négatives, qui sont pas forcément, parce qu'il y en a beaucoup qui ont récupéré du temps pour eux, qui ont récupéré des choses qui dans une espèce de vie comme ça, très de routine et tout ça, qu'on laisse tomber, et qui leur ont permis de rêver, qui leur ont permis de réfléchir, qui leur ont permis de... Donc, il y a des aspects aussi positifs là-dedans, je pense. Donc, c'est vraiment en tout en nuance, je pense. Il faut pas non plus les stigmatiser dans un truc de dire, OK, c'est vraiment l'horreur, ce qui leur est arrivé. Enfin, du moins, c'est pas ma pensée. Hein. Moi, je pense que qu'il y a vraiment deux aspects à voir. Et donc peut-être que cette partie-là, tu vois, eh bien, ça va peut-être développer beaucoup de créativité, beaucoup de liberté chez eux, que parce qu'ils auront vécu une période sans études, tout simplement. Je veux dire, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses tellement inconcevables aujourd'hui dans nos sociétés. Eh bien, des fois, sortir des études, ça peut être intéressant, quoi, comme expérience de vie, tu vois. Donc, je suis en nuance là-dessus. Voilà.
Et la vie ne s'arrête pas après ce projet. Quels sont les autres projets que tu peux avoir, développer dans le futur, d'autres, tu mènes des ateliers pour les jeunes et les enfants.
Enfin, je fais un peu plein de trucs, mais effectivement, j'aime beaucoup faire ça, en fait. J'aime beaucoup faire des ateliers qui amènent à des installations. Ça, j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est aussi converger, mettre toute une énergie créative vers quelque chose, quoi. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par exemple, cette année, je vais travailler beaucoup avec l'Espace Sangor, où là, je travaille avec une école qui s'appelle Les Carrefours, qui est une école où il y a des enfants qui ont des dysphasies, des dyslexies, enfin qui ont certains types de problèmes. Et là, justement, on mène un projet qui s'appelle Le Geste Allègre, et qui est justement une façon de revisiter son quotidien, justement en partant de l'aspect, je dirais, de mettre à plat un petit peu tous les désordres qu'on a dans notre vie, et pour essayer justement d'apporter un nouveau regard et de le contrebalancer dans quelque chose de positif, de quelque chose qui va de l'avant et tout ça. Donc si on travaille sur ça, on va le travailler plastiquement, hein, et donc aussi ça va faire, je pense, ça va faire l'objet d'une exposition au Sangor. Et j'ai encore un autre projet avec eux, justement, sur le Covid. Alors là, c'est des primaires, là, par contre. C'est plutôt des primaires. Mais aussi, pareil, tu vois, j'aimerais faire des capsules vidéo sur cette notion de Covid et sur toutes les thématiques qui ont découlé de ce confinement, justement. Tu vois, c'est pour ça. Parce que il y avait eu, effectivement, le repli sur soi, le fait de rester à la maison, tout ça. Donc, j'aimerais vraiment faire des capsules de chaque fois sur cette thématique et à travailler avec les enfants. Donc voilà, ça c'est les projets immédiats. Et puis après, il y a d'autres choses qui arriveront, j'imagine.
Voilà. Merci beaucoup, Oren. Pour rappel, l'exposition donc à Beaux-Arts, les petits détails pratiques.
Oui, donc c'est à Beaux-Arts, c'est au Palais des Beaux-Arts. Donc c'est rue Ravenstein numéro 23. Et donc l'expo, c'est jusqu'au 1er novembre, sauf les lundis, donc c'est à voir, on peut y aller tous les jours sauf les lundis. Alors, une chose importante avec cette histoire de Covid, il faut réserver ses places, et ça se fait par internet. Donc il faut aller sur beauxarts.be et là taper Next Generation Please, et là hop, il y aura les tickets. Il y a des places qui sont à 2 et 4 euros, et donc c'est là qu'on peut prendre les places.
Donc, ok, et c'est 4 euros ou 2 euros. Donc,
oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est
pas très cher. Un prix et pratique. Ouais. Et il y a une page Facebook aussi de l'exposition.
Tout à
c'est,
fait.
Il faut taper Waste Market dans Facebook.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Hein. Oui, on avait créé, c'est vrai. On avait créé au tout début une page Facebook, Waste Market, pour justement faire partager le projet le plus possible. Et alors, il y a beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'on avait créé 3 cellules. J'ai oublié de dire tout ça, mais on avait créé 3 cellules qui étaient la cellule installation, donc ceux qui travaillaient les objets, la cellule communication, donc ceux qui ont beaucoup travaillé sur la communication. Communication par Facebook, et puis une cellule plus de texte, quoi, donc parce qu'on avait travaillé aussi sur les textes, sur des choses comme ça, voilà.
Ben donc tout le résultat là, et puis toi tu as un site aussi.
Oui, c'est vrai.
Non.
J'oubliais. Oui, j'ai un site qui s'appelle Les Ateliers d'Oran, tout simplement.
Voilà.
Donc, et Oran, ça s'écrit O-R-A-N-E. Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'être venu
merci à toi,
de si bon matin. Ouais. Et bonne continuation. Ouais. Et Donc l'exposition jusqu'au 1er novembre.
Oui, ça vaut vraiment la peine de la voir. Elle est très chouette. Ouais,
allez-y, ça a l'air riche de plein de choses. Merci encore et bonne journée. Nous, on continue en musique.